Oui, bonjour, je suis berger, salarié, je fais également partie du réseau Loup. Je vous appelle au sujet du loup parce qu'on entend fréquemment des auditeurs qui donnent des solutions. On a entendu une auditrice qui disait que les ânes, en fait, protégeaient les troupeaux, ce qui est vrai, mais il faut savoir quand même qu'il y a des équins qui sont prédatés par les loups. Là, on entend dire qu'il y a une race de chien qui est utilisée en Italie, qui est une race de chien qui est hyper efficace et que du coup, ça poserait plus de problème. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a environ 55 millions qui sont utilisés par l'État en mesure de prévention hein, pour financer en partie le salaire des bergers dans les zones à loups à 80%, qui financent l'achat des chiens de protection, leur entretien, qui permettent d'acheter les filets pour faire les parcs de nuit électrifiés pour protéger les troupeaux. Et en fait, la présence du loup n'est pas partout équivalente dans les Alpes. Par exemple, vous avez des secteurs qui sont plus prédatés que d'autres. Donc malheureusement, c'est pas souvent la faute des éleveurs, c'est aussi que c'est tout simplement le contexte qui fait que c'est plus compliqué. En fait, la présence du loup est un problème. On utilise les moyens de protection qu'on a à disposition. Il n'y a pas de solution miracle. Ça reste une présence qui est pas facile et on essaye de faire avec. Il faut arrêter de dire qu'il y a des solutions miracles. Ça n'existe pas. Je vous remercie. Au revoir.
Bonjour, Christian de Lannion. À Lannion, dans les Côtes d'Armor en Bretagne, la communauté d'agglomération a planifié la construction d'un quatrième pont franchissant la rivière Le Léguer, destiné, je cite, à désenclaver le sud du territoire. Sauf que le gain de temps, jamais vraiment estimé, serait de quelques minutes aux heures de pointe. Coût du projet, 14 millions d'euros. En revanche, on connaît les conséquences d'un tel projet. Appel d'air pour la circulation automobile, donc accroissement de la pollution atmosphérique et sonore en fond de vallée. Sans oublier bien sûr que l'argent dépensé là serait bien plus utile ailleurs. Ce projet mégalomaniaque dans les tuyaux depuis des années se justifie encore moins dans un contexte de réchauffement climatique et de remise en cause de tout automobile. Mais rien n'est joué si nous nous mobilisons. À bientôt et merci pour vos émissions.
Oui, bonjour la Terre au carré, c'est Jean-Luc de l'Aveyron. J'habite près d'un lac qui s'appelle le lac de Paroloupe. Il est connu pour sa beauté, ses activités nautiques. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ont l'habitude de venir depuis toujours. Mais il y a 2 ans, les jet-skis et apparentés, type scooter et tout ça des mers, ont débarqué. Le lac est devenu insupportable du fait du bruit continuel des moteurs de ces jet-skis. Ils sont jusqu'à, je sais pas, 50, 60 sur le lac, lancés à fond. Je m'aperçois que la cohabitation avec les baigneurs, les canoës, etc., les bateaux à voile, est très difficile. Il y a surtout ce bruit infernal qui résonne de berge en berge. La faune aussi, les poissons, oiseaux, pâtissent de ce bruit. Au secours! Ce lac de Paroloupe, qui était calme, plaisant pour tous, est devenu un enfer. Voilà, la Terre au carré. Merci d'avoir pris mon message. À bientôt.
Voilà, au secours crie Jean-Luc et merci pour votre message qui introduit parfaitement le sujet de notre dossier sur le bruit dans un instant. Pour vos messages et pour dialoguer sur le répondeur de la Terre au carré, bien sûr, un seul numéro de téléphone, le 01 56 40 45 45. En 2018, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, plaçait le bruit comme deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique. Ça représente sur notre continent 20% de la population, 100 millions de personnes donc qui sont exposées de manière chronique à des niveaux de bruit de longue durée préjudiciables pour leur santé. Parmi les principales nuisances sonores, on trouve le trafic routier, aérien, les bruits du voisinage et les incidences sur la santé peuvent se traduire par des troubles du sommeil, des effets négatifs sur le système cardiovasculaire, le métabolisme et même la cognition. En ce moment, jusqu'au 1er février, se déroule partout en France la Semaine du son qui consacre une large place à la santé auditive. Qu'est-ce qu'on appelle donc la pollution sonore? À partir de quel seuil peut-on estimer que le son est dangereux et comment, évidemment, lutter contre le bruit? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi de l'émission avec nos invités en studio avec nous, Fanny Mietlicki, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Françoise Brochot en duplex, bonjour à vous.
Bonjour.
Fanny Méticli, vous êtes la directrice de Bruit Paris. Hein, c'est un centre d'évaluation technique de l'environnement sonore. Vous êtes aussi la présidente de la commission santé-environnement du Conseil national du bruit. Et Françoise Brochot, vous êtes quant à vous la présidente de l'association de défense du Val d'Oise contre les nuisances aériennes, que l'on prononce comment ?
C'est l'Advocnar.
Voilà, on va donc parler du fléau du bruit avec vous. Et bien sûr, on attend le témoignage, les questions de nos invités sur la page de La Terre au Carré, sur l'application France Inter avec les notes vocales. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi réagir dans la story Instagram du compte de La Terre au Carré où on vous demande depuis ce matin de nous dire quelle est pour vous la nuisance sonore la plus gênante. Donc vous pouvez encore nous répondre pendant toute l'émission. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Avec la pollution sur nos antennes, en tout cas pour certains auditeurs qui râlent contre certaines publicités. Donc j'ai redemandé à la direction de Radio France quelques explications.
Et bien voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, dossier préparé par Lucie Sarfati et à la technique Michel Bézikian aujourd'hui.
Mathieu Vida, La Terre au Carré. Sur France Inter.
Franchement, tous les jours, je ressens les méfaits du bruit, surtout quand on habite à Paris comme moi.
Je perçois cet environnement comme une nuisance énorme.
Je dirais une pollution, tout simplement.
Oui, gêne. Le bruit d'une façon générale.
Je ne sais pas comment font les gens pour habiter. Mais bien, ils prennent l'habitude.
Il faut faire avec. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie.
Oui, le stress, beaucoup de stress. Et puis, au niveau auditif, sûrement, à un moment donné, tout simplement une fatigue en fin de journée.
Déprimant.
Il est sûr que ça va être fatigant, parce que un bruit comme ça...
Voilà, on entendait bien le bruit d'ailleurs dans cette vidéo de Bruit Paris prise en 2020, micro-trottoir donc autour de la pollution sonore aujourd'hui, donc je le disais, considéré comme un problème de santé publique. Alors comment lutter contre ce phénomène ? Dossier avec vous donc Françoise Brochot et Fanny Mietlicki. Vous nous présentez Bruit Paris d'ailleurs, je disais, c'est un centre d'évaluation donc de l'environnement sonore, ça veut dire quoi concrètement ?
Tout à fait, c'est un observatoire du bruit en fait hein, sur la région Île-de-France, donc on mesure, on caractérise les nuisances sonores sur le territoire et puis on accompagne aussi les politiques publiques pour mettre en place des actions concrètes pour lutter contre le bruit.
Donc seulement l'Île-de-France, hein, c'est pas très représenté dans le reste
du
territoire.
Oui, alors notre association a une compétence régionale. Il y a également une association un peu du même type sur le Grand Lyon. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de couverture nationale avec des observatoires comme il en existe par exemple pour la qualité de l'air.
Ouais. Françoise Brochot, présentez-nous votre association donc, qui se bat contre les nuisances aériennes. Dans quelles circonstances est-ce qu'elle a été fondée, cette association ?
Eh bien, suite à la création de Roissy en zone rurale, mais avec des pistes orientées vers les zones les plus peuplées du Val d'Oise, les habitants se sont constitués en association dès 1986. Et comme malheureusement cet aéroport prend de l'importance, l'association est toujours là pour défendre la santé des riverains et pour trouver des solutions par rapport à la pollution sonore, mais également par rapport à la pollution chimique de l'aéroport. On se préoccupe aussi de l'impact environnemental de l'aviation.
Ouais, les habitants du Val d'Oise sont très mobilisés, évidemment, en raison de la présence de Roissy.
Mobilisés, mais aussi désabusés, parce que ça fait quand même des décennies que l'on demande à ce que l'on prenne des mesures pour encadrer l'activité de cet aéroport, qui représente quand même par habitant environ 420 survols d'avion par 24 heures, jour et nuit. Donc il y a un véritable problème de santé publique. C'est pas seulement une question de gêne et de désagrément. Hein. On est vraiment sur un problème de pollution sonore perpétuelle. Et les gens ne savent plus quoi faire, en fait, et on reste leur seul rempart. Nous, on mène des actions juridiques, on mène des actions de lobbying auprès des décideurs pour essayer d'obtenir des améliorations.
Il n'y a pas de couvre-feu à Roissy, hein, comme il en existe un à Orly, je crois. Hein.
Tout à fait. Roissy cumule le plus grand nombre de vols de nuit de l'Europe. Hein, on a le double de nombre de vols de nuit de l'aéroport de Francfort ou d'Israël ou de Madrid, par exemple. C'est 170 survols chaque nuit, entre 22h et 6h du matin.
Vous habitez à combien de kilomètres de l'aéroport ?
Alors paradoxalement, je suis assez éloignée de l'aéroport. Je suis à 17 km à vol d'oiseau, mais exactement dans l'axe des pistes.
Donc vous entendez les avions toute la journée ?
Et toute la nuit. Toute la journée, toute la nuit. Voilà.
En quelle année vous êtes arrivée dans votre maison ?
En fait, moi, je suis quasiment née dans la région et j'ai décidé de m'installer en 93 dans cette maison en Vallée de Montmorency. parce que à l'époque, les nuisances étaient, on va dire, supportables. Et on nous annonçait une solution pour alléger nos nuisances qui était une piste transversale qui aurait permis une sorte de partage des nuisances. Et finalement, en l'an 2000, on a ouvert deux pistes supplémentaires à Roissy et il y a eu une augmentation énorme du trafic aérien.
Le bruit des avions, c'est évidemment un énorme problème pour beaucoup de gens, Fanny Mitlicky, mais c'est pas, j'imagine, à l'échelle, si on prend juste de la France, de la métropole, le seul problème. Les nuisances sonores, en fait, en général, c'est quoi? C'est plutôt le trafic automobile? C'est
la première source de pollution sonore qui gêne le plus grand nombre et qui est la plus répandue, c'est le bruit routier, évidemment, hein, c'est la circulation routière. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a des populations qui sont très fortement gênées et qui ont des conséquences sur leur santé du fait du bruit aérien, mais aussi du bruit ferroviaire pour les personnes qui sont les plus proches des lignes. Et également, il y a beaucoup d'autres types de bruits, les bruits de voisinage dont on parle moins, qui sont plus difficiles à quantifier, à caractériser. Les chantiers, les grands chantiers, mais ça, bon, c'est limité dans le temps, normalement. Mais on a aussi l'émergence de toutes les pollutions sonores nocturnes dans les villes, avec l'occupation de l'espace public, la vie festive, qui gêne de plus en plus de riverains aussi.
À la question posée justement à nos internautes hein, sur la story Instagram de La Terre au Carré, quelle est pour vous la source de pollution sonore la plus désagréable, arrive largement en tête donc les transports, hein, véhicules, 61% de nos auditeurs, et puis en seconde position les travaux, les chantiers, 25%, et ensuite voisinage, effectivement, les bars, 12%. Camille, il y a déjà des questions.
Oui, Morgane nous écrit par mail que la pollution sonore est bien sûr beaucoup plus évidente en milieu urbain, mais elle nous dit elle existe aussi en milieu rural et en milieu naturel. Donc est-ce que Fanny Mitlicky, vous pourriez nous en parler un petit peu de cette pollution sonore qui n'est pas qu'en ville, donc.
Bien sûr, parce qu'en fait le bruit, c'est à la fois une intensité qu'on reçoit, mais aussi, c'est aussi un différentiel finalement par rapport au bruit de fond dans lequel on vit. Et donc en fait, même à la campagne, on a un bruit de fond beaucoup plus bas, c'est plus calme de manière générale. On peut avoir des émergences sonores et des pics de bruit qui gênent particulièrement. On va être plus sensible du coup aux émergences. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe. En effet, on peut pas opposer la ville et la campagne en matière de bruit. On peut avoir des problèmes de nuisances sonores et de pollution sonore dans les deux cas. Évidemment, c'est beaucoup plus concentré lorsqu'on est en forte densité urbaine, parce qu'on a à la fois une forte concentration de voies routières, voies ferroviaires, éventuellement de survol d'avions, et puis une très forte densité de population. Donc ça, c'est un contexte évidemment très favorable à l'émergence de conflits pour le bruit.
Depuis quand on parle de pollution sonore,
on
l'inscrit dans la pollution environnementale.
C'est assez récent, c'est depuis en fait la loi d'orientation des mobilités qui a été votée en fin 2019, que le terme a changé dans le code de l'environnement. Avant on parlait de nuisance sonore et là on parle maintenant de pollution sonore. Donc ça c'est vrai que c'est une étape de franchie, ça montre qu'il y a une réelle prise de conscience sur le fait que maintenant le bruit a un impact sur la santé réelle qui dépasse l'inconfort ou la gêne. On a de plus en plus d'études scientifiques qui le montrent. Au niveau international, le bruit est, comme vous le disiez, le deuxième facteur environnemental de cause de morbidité, c'est-à-dire de désagrément pour la santé, puisqu'il entraîne des perturbations du sommeil, des risques cardiovasculaires accrus, des difficultés aussi, ou des troubles du système endocrinien ou métabolique. Et donc tout ça a beaucoup de conséquences. Évidemment, ça génère aussi un stress chronique, de la fatigue, des difficultés de concentration, des retards dans les apprentissages, notamment autour des aéroports. Ça a été très bien montré dans certaines études.
On va parler d'une étude qui était faite là-dessus. Ouais.
Voilà, donc on a énormément de choses qui montrent que le bruit, c'est vraiment maintenant une pollution, c'est pas seulement une question de nuisance.
On va avoir les témoignages des auditeurs tout au long de cette Terre au Carré qui vont pouvoir nous dire justement de quelle façon le bruit agit, pourquoi pas, effectivement, sur leur santé. Et c'est le dossier donc de l'émission avec tous ces messages sur franceinter.fr. Le temps d'écouter Arthur H.
Si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir. Au loin danser. Nancy, c'est lent. C'est lent, sinon Nancy. Nancy, c'est si lent. Si lent, sinon Nancy, tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris, comme dit Rimbaud, à peu près. L'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, bel Arthur, les supplices, c'est sûr, Nancy s'en est allée. Au loin danser.
Nancy, c'était Arthur H sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Que pensez-vous de cette situation et le passage de cet avion ?
Bon, bien écoutez, j'ai une petite fille de 2 ans et demi et lorsque c'est l'été et que les Boeing décollent, il m'est absolument impossible. Je dois même courir quand elle est dans le jardin pour aller la chercher parce qu'elle est littéralement traumatisée.
Ouais, mais c'est infernal.
Absolument abrutissant.
On a les usines, on a les avions, c'est plus tenable. On était bien dans notre petit coin, maintenant c'est fini. Nos pavillons ne valent plus rien. On ne peut plus vendre.
Voilà, Orly et Roissy, 1969-1970. Françoise Brochot, vous voyez que déjà, même avant que vous ne souffriez vous-même de ces bruits, on en parlait déjà dans les infos en France, avec effectivement des problèmes qui n'ont fait qu'augmenter, j'imagine. Comment est-ce qu'on mesure justement la nuisance, comme vous, on est confronté précisément à un bruit comme ceux des avions ?
Eh bien, c'est un impact permanent sur la vie à la maison, hein. Donc, finalement, impossible d'utiliser les extérieurs. Les problèmes de sommeil évoqués par Fanny Metlicky sont une réalité quotidienne. Donc, pour moi, j'ai des difficultés d'endormissement. Pour mon mari, c'est des réveils prématurés, donc sommeil écourté. Et puis, un jour, j'ai découvert que j'avais de l'hypertension alors que j'avais 40 ans. Mmh. Ça m'a quand même interpellée puisque aucune hérédité particulière dans ma famille. Et c'est là que je me suis penchée sur les études épidémiologiques et que j'ai découvert que ça pouvait être parfaitement une conséquence de ce bruit aérien que je subissais en permanence.
Mais alors Fanny Metlicky, comment ça se mesure alors concrètement ? On a des outils pour ça ?
Oui,
ça,
il y a deux.
C'est l'unité décibel qui est utilisée ?
Oui,
comment ça se passe ?
En effet, on exprime les résultats de nos mesures en décibels. En fait, il y a deux types d'outils qu'on utilise. Il y a les sonomètres, les stations de mesure. Hein. On va mettre des capteurs dans l'environnement pour mesurer le bruit, pour avoir une description très fine, seconde après seconde, du niveau sonore. Et ça nous permet de calculer différents indicateurs, à la fois des indicateurs de bruit moyen, mais aussi de fréquence ou de répétitivité de pics de bruit. Et puis, on a aussi un outil qu'on appelle la modélisation, qui là est basé en fait sur des données de trafic, sur des paramètres météorologiques, sur des données concernant le bâti, les infrastructures. Et ça, en fait, c'est des outils de calcul qui sont faits pour estimer sur de grands territoires les niveaux niveau de bruit. Alors, c'est moins précis évidemment que les mesures, mais ça permet de documenter quand même et de caractériser à assez grande échelle les niveaux sonores. Donc en fait, on utilise ces deux types d'outils qui se renforcent mutuellement, puisque évidemment les mesures vont permettre d'affiner les modélisations et les cartographies, et surtout les mesures apportent quand même la vraie vie, enfin des données de réelles sur la vraie vie et notamment sur les variations temporelles qu'on peut avoir autour des questions de bruit.
Et alors juste l'échelle, l'unité décibel, donc ça va de quel chiffre à quel chiffre, et la bonne moyenne ce serait quoi alors
si... Oui, alors les décibels, en gros, on est dans les environnements vraiment très calmes, on va être autour de 30 décibels. Ça, c'est quand vous êtes en forêt, par exemple, voilà, qu'il n'y a pas de vent, vous êtes autour de 30 décibels, des environnements très calmes. Dans la vie de tous les jours, on est autour de 60 décibels, très rapidement, dans la rue, voilà.
Que ce soit alors, en ville ou dans un...
Oui, entre 50 et 60 décibels à l'extérieur. En intérieur, c'est différent, évidemment, vous avez l'isolation, donc on est plutôt dans les 40, 50. Dans un bureau, au calme, vous êtes autour de 40, 50 décibels. Quand on est à l'extérieur, en présence de vie, voilà, les transports, pas forcément à proximité directe d'une voie, on est tout de suite au-dessus de 50, 55 décibels. Et puis, c'est fonction des pics de bruit. Lorsqu'on est survolé par un avion, par exemple, au maximum, on va avoir 75 décibels, par exemple,
dans la zone
de la Vauquenargues. Là, ça fait des pics qui émergent fortement du bruit de fond, parce qu'en vallée de Montmorency, vous êtes dans des environnements qui sont relativement calmes, par ailleurs. Et donc, quand vous avez un pic de bruit qui atteint 75 décibels, ça fait une différence de 30 décibels au passage. Et donc ça, ça se remarque évidemment beaucoup. Et lorsque on est en journée, qu'on essaye de se concentrer, ça peut perturber. Et la nuit, évidemment, ça peut créer des réveils ou des modifications de la structure du sommeil.
Vous parlez justement des pics. Nathalie, sur Facebook, nous pose cette question sur la différence entre les nuisances ponctuelles et les nuisances continuelles. Est-ce que finalement des choses ponctuelles peuvent avoir quand même un vrai impact sur notre santé?
Alors, il y a deux questions là. En fait, il y a l'aspect court terme et long terme. C'est-à-dire, si on est sur une exposition de très court terme, c'est pas forcément très grave, sauf si le niveau sonore est très intense.
C'est quoi que vous appelez très court terme?
Vous êtes réveillé une nuit parce qu'il y a une moto qui passe, par exemple.
Est-ce que deux mois de travaux à côté de chez soi, ça peut être considéré comme du court terme?
Non, là, on est plutôt, c'est l'intermédiaire, c'est le moyen terme. C'est-à-dire, ça va être des nuisances sonores qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là, on est quand même sur une exposition importante au bruit, mais qui ne va pas durer non plus plusieurs décennies. Donc, ce qu'on appelle vraiment l'exposition chronique, c'est typiquement l'exposition liée au bruit routier, au bruit des transports, qui se répète chaque jour. Et donc, au bout d'un certain temps, ça va avoir des conséquences chroniques sur la santé, de type maladie cardiovasculaire, notamment l'hypertension qui peut se développer, des perturbations du sommeil qui s'installent sur la durée, et donc ils vont modifier dans la durée aussi la qualité du sommeil. Donc ça va générer de la fatigue, des risques accrus d'avoir des accidents au travail, des baisses de vigilance, de productivité au travail. Donc tout ça a des conséquences sur le long terme. Par contre, évidemment, si c'est une nuit où on dort mal parce qu'il y a eu un pic de bruit, il y a eu une fête chez les voisins, on récupère. C'est pas pareil. Par contre, l'exposition chronique, elle a des conséquences très importantes. Après, il faut distinguer, parce que si on a un niveau sonore très important, c'est le cas en discothèque ou dans un concert, par exemple, lorsqu'il y a des gens qui, une seule fois, ça suffit pour avoir un traumatisme sonore auditif. Donc là, on peut avoir des conséquences directes, même sur du très court terme, des effets du bruit.
Françoise Brochot, est-ce que autour de vous, donc près de Roissy-Charles de Gaulle, vous avez le sentiment que tout le monde vit de la même façon le bruit généré justement par les avions, ou qu'il y a une relation finalement un peu subjective, individuelle dans la relation au bruit?
Il y a effectivement certaines personnes qui pensent que consciemment elles arrivent à occulter ce problème de bruit. Donc elles disent qu'elles s'habituent, mais en réalité les effets sur leur santé sont quand même là. Et puis d'autres personnes qui au contraire se créent une sensibilité progressive au bruit, un petit peu comme une allergie. C'est-à-dire que les premiers jours, les premières semaines, elles vont supporter ce bruit. Et au bout d'un moment, ça va être carrément inadmissible pour leur organisme. Et elles vont donner des signaux d'alerte et nous appeler au secours au niveau de l'association.
Chez Bruit Paris, vous aviez mené aussi une petite enquête auprès des plus jeunes pour voir comment ils percevaient les bruits. On va écouter, c'est l'objet aussi d'un micro-trottoir, comment ils perçoivent justement la nuisance sonore.
Oui, je suis gêné par le bruit dans l'environnement dans lequel on vit. Oui.
Celui-là, par exemple, les voitures.
Bah, les bruits, par exemple, là qu'on entend, les voitures, les camions, les klaxons, enfin tout ça, quoi.
Surtout les bruits de chantier ou des trucs comme ça quand c'est le soir.
Ce que je déteste le plus, c'est les arrêts des camions ou tous les trucs comme ça, qui, les bruits hyper stridents. Ou dans le métro, tout ça, et c'est tout le temps comme ça, et c'est insupportable.
Moi, je suis né à Paris et je suis né dedans. Donc le bruit ça me gêne pas.
J'ai un peu peur quand il n'y a pas de bruit, c'est... Par exemple là, à la campagne, quand il n'y a aucun bruit, c'est flippant.
À l'école, on a l'habitude en fait, mais il y a quand même beaucoup de bruit.
Parfois le bruit le soir c'est un peu emmerdant pour dormir.
Bah il y a beaucoup de bars dans ma rue donc, donc ça fait du bruit le soir.
Comme j'ai pas de double vitrage, oui j'en souffre.
Beaucoup de fatigue parfois, parce qu'on n'arrive pas à dormir.
Quand il y a du bruit, j'ai du mal à me concentrer. Plus de voitures hybrides, tout ça, je pense que ça peut être bien.
Bah déjà mettre genre des pots d'échappement qui font moins de bruit ou des trucs comme ça.
Déménager à la campagne. Déménager à la campagne, ouais.
Alors Fanny Metiki, est-ce qu'on a une relation individuelle au bruit? Est-ce qu'en vieillissant, on le supporte de moins en moins?
Oui, alors en effet, il y a quand même dans le domaine de la perception du bruit, il y a quand même beaucoup de facteurs individuels qui rentrent en compte, de contexte. Donc, c'est vrai qu'en général, les jeunes sont moins gênés par le bruit que lorsqu'on vieillit, ou plus on va vieillir et plus on va se déclarer gêné par le bruit. Ça, c'est une tendance. Néanmoins, on voit bien dans le reportage, hein, il y a quand même beaucoup de jeunes qui subissent aussi de plein fouet les conséquences du bruit. Ce qui est important de distinguer, c'est la perception quand même des effets réels sur la santé qui sont pas complètement corrélés, puisqu'en fait on peut se dire très gêné par le bruit et puis avoir peu de conséquences directes sur sa santé, et inversement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en effet consciemment disent bah non, moi le bruit ne me gêne pas, je dors très bien, et en fait non, si on mettait des capteurs sur leur tête et sur leur cœur la nuit, on verrait que il y a une accélération du rythme cardiaque à chaque fois qu'il y a un pic de bruit, qu'il y a des mouvements de poignets plus importants lorsqu'il y a du bruit à l'extérieur, donc ça veut dire que le corps réagit, et donc en fait ça crée quand même de la fatigue et du stress.
Pour poursuivre sur les enfants, Anne nous écrit par mail qu'elle habite en face d'un groupe scolaire d'une école. Elle dit voilà, les enfants sont évidemment beaucoup dans la cour où le volume sonore, nous dit-elle, dépasse souvent les 80 décibels, et elle voudrait savoir est-ce que les enfants justement dans les cours d'école peuvent souffrir du bruit, ou justement ce qu'on disait, ils s'en rendent pas trop compte et c'est plus les profs qui surveillent qui...
Non, il y a une fatigue qui s'installe à la fois pour les enseignants et pour les enfants.
Parce que les enfants n'ont pas l'impression qu'ils...
Ils n'ont pas l'impression, enfin, mais ils sont surexcités en fin de journée, et le bruit a participé à ce développement du stress, en fait, de l'agressivité parfois chez certains enfants. Le fait de baigner dans un bruit permanent toute la journée, y compris dans les cantines où c'est pas du tout un moment calme pour les élèves.
Mais crier dans la cour d'école, pardon, ça peut aussi faire
oui,
du bien.
Oui, bien sûr, ça fait du bien. Mais quand ça se cumule, en fait, l'exposition au bruit, quand elle se cumule entre parfois du bruit déjà dans les classes, ensuite en cours de récréation, à la cantine, en fait, il n'y a jamais de temps de pause pour ces élèves. Et donc, le soir, ils sont surexcités. Et les parents s'en rendent très bien compte, parce que c'est parfois difficile de les faire redescendre un petit peu en pression et qu'ils trouvent le sommeil.
Dans le cadre de cette semaine du son, hein, qui a lieu en ce moment, organisée entre autres par l'UNESCO, il y a un sondage justement qui a été mené auprès des enseignants sur le bruit dans les salles de classe, oui. Et ils répondent très largement, plus de 60%, hein, oui. Sur les nuisances que ça crée pour eux. Hein.
Oui, et puis pour les enseignants, c'est terrible aussi. Hein. Il faut voir le nombre d'enseignants qui ont des problèmes de voix, par exemple, parce qu'ils sont obligés de hausser le ton pour se faire entendre.
Ils vont certainement témoigner. En tout cas, on attend leur message également sur l'appli France Inter pour vous entendre directement ou sur la page de l'émission.
France Inter. La Terre au carré.
14h32, Camille passe au vert.
Et c'est le retour des chroniques sur la pub à Radio France. D'ailleurs, chaque année, je vous en parle fin janvier. Mais alors, c'est un hasard total. Hein. Là, c'est parce qu'on a encore reçu beaucoup de messages d'auditeurs, y compris sur notre désormais célèbre répondeur. Pauline, par exemple, il y a quelques jours.
Il y a une pub pour un abri de piscine qui permet d'avoir sa piscine chauffée pendant tout l'hiver. Ça passe sur France Inter avant votre émission, avant les infos, 50 fois par jour. Et je crois que je suis en train de faire un craquage, parce que jusque-là, les pubs pour Bouygues Télécom et autres opérateurs, ça me saoulait. Mais alors là, la pub qui dit chauffez votre piscine, et c'est ça le bonheur. Enfin, vous voyez, un moment, il faut que France Inter et les équipes des partenariats et du marketing, ils se mettent un peu OK avec votre ligne éditoriale, parce que c'est juste pas possible.
Alors, un autre message de Alain à la suite de notre émission sur les ravages de l'exploitation des mines, c'était il y a quelques jours.
La première chose que vous faites après l'émission, c'est de passer des publicités
sur les télévisions 4K, etc. Donc, c'est pas très judicieux, disons.
Ben non, puisque pleine de métaux issus des mines dont on parlait. Alors, il n'y a pas que les auditrices et auditeurs de la Terre au Carré. Hein. La médiatrice de Radio France reçoit régulièrement des mails d'auditeurs de France Inter, quand même, je le précise. Hein. C'est notre antenne qui fait le plus grincer les dents sur ce sujet. François.
Certains produits vantés semblent incohérents avec les enjeux sociaux et environnementaux et la diffusion de certains spots est incompréhensible, voire révoltante.
Xavier, lui, est tombé sur une pub pour une compagnie aérienne sur Internet.
Quelle hypocrisie affligeante.
Bon, j'ai donc re-solliciter la présidence de Radio France, toujours ravi que je lui remette le sujet sous le nez, hein, surtout à quelques semaines de la présidentielle, parce qu'il est hautement touchy, comme on dit, très politique avec les radios privées prêtes à dégainer en face. Sybille Veil a, m'a-t-on informé, un agenda très chargé, mais j'ai pu voir le directeur de la régie publicitaire, Pascal Giraudias.
Bonjour. C'est encore moi, donc.
Bah oui, hein.
Eh oui, hein, il sait qu'il a été envoyé au front. Et le premier argument pour justifier la publicité sur nos antennes, on vous le redit, c'est la dure réalité économique.
Aujourd'hui, les recettes publicitaires représentent 9% du budget de Radio France, sur une soixantaine de millions à peu près d'euros, toutes recettes confondues, broadcast, digital. Cette ressource, elle est à mettre en regard donc, de la baisse de la redevance qui est en vigueur depuis 2018.
Autrement dit, impossible de se passer de ces 60 millions d'euros pour continuer à faire fonctionner, si on veut continuer à faire fonctionner nos antennes et assurer notre mission de service public. Mais ne peut-on pas choisir des annonceurs, des pubs, un peu plus en adéquation, on va dire, avec les enjeux environnementaux ?
C'est pas nous qui fixons les règles, donc il y a un décret qui dit aujourd'hui qu'on peut communiquer sur l'ensemble des secteurs en dehors des campagnes promotionnelles de la distribution. À partir de là, tous les autres annonceurs sont autorisés, bien évidemment, à communiquer sur les antennes de Radio France, tous secteurs confondus.
Alors, dans le détail, il me l'a donné, hein, sur les 13 minutes diffusées chaque jour en ce moment entre 5h du matin et minuit, ce sont les banques et les assurances qui ont la plus grosse part sur nos antennes, 20%, suivi des services type Pôle emploi ou campagne ministérielle, 16%, 8% pour l'automobile, l'aviation c'est 0,4% et l'énergie moins de 3%. D'ailleurs, à ce sujet...
On n'a pas aujourd'hui de pétrolier sur les antennes de Radio France, parce qu'on ne les démarche pas. Oui, ça ne s'est pas présenté. Mais enfin, on n'a pas d'action pour aller chercher ce genre d'annonceur.
Oui, parce qu'alors les 40 personnes qui travaillent à la régie publicitaire de Radio France, leur boulot, eh ben, c'est d'aller démarcher les annonceurs pour leur vendre des espaces publicitaires. Hein, jusqu'à 15 000 euros les 30 secondes entre 7h30 et 8h du matin, le pic d'audience. Mais donc, il y a bien des cibles hein, puisqu'ils vont les démarcher. Et du coup, j'ai demandé à Pascal Giraudias pourquoi, par exemple, il tournait le dos, il le dit donc, aux pétroliers mais pas aux banques, dont certaines sont régulièrement pointées du doigt pour leurs financements colossaux aux énergies fossiles. Réponse.
Le secteur bancaire est le secteur historique des antennes de Radio France. Donc ces secteurs-là et ces annonceurs-là ont l'habitude de communiquer et on continue à avoir des relations commerciales avec eux.
Malgré le fait qu'ils soient régulièrement accusés d'être climaticides par leurs financements.
C'est un secteur que moi, je suis pas censeur et j'ai pas cet élément-là. Enfin, je peux m'informer, mais je vais pas intervenir sur ce point-là, je respecte la réglementation. Notre travail essentiel, en tout cas le mien, il est plus de veiller à la véracité des messages que de faire du tri en amont.
Et c'est le même argument pour les abris de piscine chauffés, hein, pour répondre à Pauline, vantée en plein mois de janvier. Ils ne sont pas censeurs. Et puis, ajoute-t-il...
On porte aussi à travers les messages publicitaires les secteurs économiques porteurs, hein, mais c'est également le miroir des centres d'intérêt et de la consommation de la majorité de nos auditeurs.
À commencer par l'automobile qui, même si elle est en repli, il faut le noter à l'antenne, elle concerne l'automobile beaucoup de Français. Sybille Veil, d'ailleurs, l'avait affirmé l'an dernier.
Un service public, ça n'exclut pas, ça ne stigmatise pas. Ça veut dire qu'on doit s'adresser à tous les Français. Ceux qui habitent dans les villes, qui peuvent utiliser des mobilités douces, ceux qui sont en périphérie, qui doivent prendre leur voiture tous les matins pour aller travailler.
Alors ça, c'était au moment de l'annonce sur le verdissement de la publicité à Radio France, parce que des initiatives, on le souligne, sont prises également. Depuis le mois de septembre, il y a des messages qui tournent, vous les entendez certainement. 10 heures au total cette année offertes à des associations qui luttent contre le changement climatique. Les résultats sont très positifs. D'ailleurs, on a aussi des messages d'auditeurs, je le souligne encore, pour nous féliciter et nous dire évidemment de continuer et c'est prévu.
On continue et si on peut effectivement on accentuera mais pour l'instant on est en train de construire 2022.
Voilà, ce qui se dessine c'est la protection des océans et les mobilités. Ils veulent voir en fait eux le verre à moitié plein hein, sans se dire que les efforts mis en place d'un côté sont complètement détruits ou décrédibilisés par d'autres espaces et d'autres messages. D'ailleurs j'ai demandé Mathieu si après l'automobile automobile, il pouvait peut-être éventuellement éloigner la téléphonie de l'émission.
Je ne vais pas vous répondre sur ce point-là, c'est une discussion qu'on doit avoir avec la chaîne. Voilà, évidemment, il faudrait carrément supprimer tous les écrans autour de la Terre au carré, ce qui pourrait être problématique.
Entre 1500 et 2000 euros les 30 secondes avant et après nous, sachant que plus on met de contraintes en fait aux annonceurs, plus eux vont faire un petit peu pression, ils vont en profiter, c'est-à-dire négocier les prix. Ils vont dire, oh, si on n'a pas le droit d'être là, vous nous faites les trucs moins chers, etc. Bref, même s'il y a des points positifs, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc la réflexion se poursuit.
Et c'était Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr réécouter attentivement sur la page de la Terre au carré. Je voyais réagir à Fanny et Mitiki, parce que là, on est dans une autre forme de pollution, finalement.
C'est vrai, c'est très intéressant. Parce que... voilà.
Enfin, cela dit, attendez, les publicités au-delà du fond, là, on parle évidemment du fond par rapport aux enjeux environnementaux, mais parfois les publicités particulièrement à la radio peuvent être extrêmement agaçante à l'oreille. Est-ce que ça peut avoir un impact?
Mais il y a aussi une différence de perception du son entre les publicités, alors surtout à la télé, entre les publicités et les émissions en fait. Et ça, c'est lié à la compression du son en fait. D'ailleurs, lors de la semaine du son, il y a tout un chapitre qui est.
On dit même qu'on monte le son à la télé.
Exactement, on a l'impression. En fait, c'est pas vrai, mais c'est la façon dont le son est compressé en fait. Et,
Et à la radio, voilà. Parce que dans les publicités, ils parlent souvent hyper fort.
Oui. C'est la même problématique. Et ce qui est nouveau, c'est que dans le cadre de la semaine du son, une étude a été publiée pour montrer que lorsqu'on expose des cochons d'Inde en fait à des bruits compressés, ils ont des problèmes auditifs qui se mettent en place. Donc c'est pas très rassurant sur l'impact que ça peut avoir aussi chez nous. Voilà.
Allez, si vous souhaitez réagir à la publicité sur France Inter, eh bien vous pouvez le faire sur le répondeur de l'émission 01 56 40 45 45.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió o que me lo inventó. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionero y como ya viene se te va. Será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionero y como ya viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Y como ya viene, se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero.
et La Fama. C'était Rosalia et The Weeknd.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Et voilà, il y a 4 minutes qui venaient d'en passer un. On voit là un autre, vous voyez, vous suivez le couloir, il est juste dessus là, voilà. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une classe qui n'est pas isolée aujourd'hui, toutes les 4 minutes vous vous arrêtez de parler pour pouvoir attendre que l'avion soit passé. Quand vous recommencez, vous avez commencé à expliquer, mais il y a un nouvel avion qui passe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est très content d'avoir bénéficié de cette isolation acoustique, on va dire.
Là déjà de visu à la louche, hein, on est à facilement 30 décibels d'atténuation liée au bâtiment, hein, ce qui est une bonne isolation. Une particularité pour le bruit aérien, c'est que c'est un bruit relativement court, mais relativement intense. Donc il peut avoir des interférences, notamment pour les écoles, dans les processus d'apprentissage.
Et ça se passe dans la région lyonnaise, extrait du blog L'Extramédia en mars 2018, avec donc l'aéroport tout près d'une école. Et on entendait François Rosier, le directeur de l'école, et Bruno Vincent, président d'Acoucité, donc à Lyon. Françoise Brochot, avec vos problèmes, on le disait tout à l'heure, de nuisances sonores liées à l'aéroport de Roissy. Est-ce que l'aéroport de Roissy, justement, finance des travaux, par exemple, chez les particuliers pour les protéger du bruit ?
Alors, il y a effectivement un dispositif d'aide à l'insonorisation qui est prévu, mais qui concerne seulement une partie des personnes exposées aux nuisances, hein, puisqu'il y a une certaine limite à ce dispositif en termes géographiques. Mmh. Donc nous, on estime que ce n'est pas suffisant parce que des personnes au-delà de cette zone sont également fortement impactées par le bruit le jour et la nuit. Le deuxième problème, c'est le manque de moyens financiers pour isoler les maisons. Donc le dispositif existe, mais aujourd'hui, on a 6 ans d'attente entre le début d'une demande et la réalisation des travaux dans une maison ou un appartement. En fait, c'est financé par une taxe versée par les compagnies. La taxe n'est pas d'un montant suffisant et en ce moment, évidemment, avec la crise sanitaire, il y a très peu d'avions qui passent, donc très peu de taxes versées.
On va écouter un message vocal de Marc qui vient d'arriver sur l'application France Inter.
Bonjour France Inter. Il me semble que on devrait commencer par les méthodes de construction qui n'isolent pas vraiment des bruits extérieurs.
Fanny Mitiki, par quoi on commence pour se protéger du son alors, et du bruit ?
La meilleure façon, c'est quand même de réduire le bruit à la source. Les techniques de renforcement de l'isolation des logements doivent arriver en dernier ressort, parce qu'on peut pas non plus vivre les fenêtres fermées, pas pouvoir ouvrir ses fenêtres, pas pouvoir profiter de son balcon, de sa terrasse ou de son jardin lorsqu'on en a. Donc le premier effort à faire, c'est quand même de limiter le bruit à la source. Après, on peut travailler sur la propagation du bruit. Alors ça, c'est plutôt vrai pour le bruit des transports terrestres, parce que là, on peut faire des murs anti-bruit, des merlons. Pour le bruit des avions, c'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Et donc, le dernier ressort, c'est en effet de renforcer l'isolation des logements. Mais ça a ses limites.
On a des questions. Alors, Gilles, par exemple, nous demande pour un marteau-piqueur, est-ce qu'il est possible de produire un son inversé du marteau-piqueur?
C'est quand même très compliqué. Alors c'est possible dans certaines mesures. C'est pour ça que dans les avions, par exemple, quand vous prenez l'avion, vous arrivez à créer, vous pouvez créer une petite bulle autour de vous de plus calme. Donc ça, c'est possible dans certaines conditions. Dans l'environnement, c'est très compliqué.
Et Claude, lui, nous demande si mettre plus d'arbres en extérieur, dans les rues, dans les cours d'école et des plantes en intérieur pourrait atténuer le niveau sonore.
Alors la végétation a un effet subjectif sur la perception du bruit, c'est-à-dire que quand on voit du vert, on ressent moins le bruit. Donc il y a un effet subjectif. Voilà, quelqu'un, si vous avez une voie ferrée, par exemple, si vous avez un rideau d'arbres entre la voie ferrée et vous, vous allez mieux tolérer, entre guillemets, de manière subjective, le bruit. C'est pas pour ça que les effets sanitaires dont on parlait tout à l'heure, la nuit, tout ça, voilà. Donc ça, c'est un effet, il y a un effet subjectif de perception. Et il peut y avoir un effet aussi d'atténuation du bruit, mais là, il faut alors soit que ça soit une rangée d'arbres très importante pour avoir une absorption créée par la végétation. Ce qui marche mieux, c'est lorsque la végétation se trouve le long des parois, donc des murs végétalisés ou au sol, parce que là, ça évite la réflexion du son en fait sur des parois dures. Donc en ville, ça peut être très efficace quand même de végétaliser, de remplacer du béton par de la végétation, par du gazon, par de... Voilà. parce que ça crée un phénomène d'absorption. Et ce qu'il faut éviter en ville, c'est typiquement l'exemple de la place de la République où il n'y a que du minéral. Et ça, c'est terrible parce que ça renvoie tous les bruits.
Françoise Brochois, est-ce qu'on peut imaginer qu'un aéroport aille jusqu'à faire dévier la trajectoire des avions pour protéger les riverains? Est-ce que ça peut se faire, ça?
Ça peut parfaitement se faire aujourd'hui avec les techniques de guidage des avions et leurs performances techniques. Avant, les avions devaient absolument être face au vent, d'où l'orientation des pistes de Roissy actuelles. Mais aujourd'hui, on pourrait parfaitement changer les choses. On y travaille d'ailleurs actuellement avec un projet de descente continue qui va être mis en place en fin 2023 et qui va à un moment adopter une approche transversale. Donc c'est possible aujourd'hui.
On a des questions.
On peut ainsi éviter, on peut aussi éviter ainsi des zones densément peuplées.
On a des questions, je disais aussi, sur un autre moyen de transport qui agace fortement certaines personnes. Ce sont les deux roues, en particulier scooter, moto, évidemment. Guillaume nous écrit qu'ils échappent, selon lui, à tout contrôle dans le trafic citadin particulièrement. Et un autre auditeur nous demande un petit peu quid des radars anti-bruit, en particulier pour ce genre de d'engins, alors Fanny Metlicky.
Alors c'est vrai que la problématique des motos trafiquées ou des scooters débridés, c'est une forte source de pollution sonore. On a à peu près rien qu'en Île-de-France un tiers des Franciliens qui citent le bruit des motos comme la première source de gêne liée au bruit des transports dans leur quotidien. Donc on voit que c'est très important. Pour lutter contre ça, en effet, il y a de la pédagogie. On peut inciter les conducteurs à être plus civiques, à ne pas débrider leur scooter, à ne pas enlever et trafiquer les pots d'échappement. Et puis, il y a aussi des dispositifs plus à visée de sanctions, et c'est ce qui est en train d'être expérimenté à l'heure actuelle.
Il y a des radars anti-bruit,
voilà.
C'est ça?
Ça vient d'être mis en œuvre, puisqu'on est rentré dans une expérimentation. Donc, Bruit Paris en a conçu un, en fait. Ouais. On est fabricant d'un prototype de radar sonore. Il y a deux autres fabricants en France aussi qui sont lancés dans cette course. Cela. Et le ministère a lancé depuis le début janvier une expérimentation grandeur nature de ces prototypes de radars sonores. Donc il y a plusieurs villes qui vont être pilotes sur ces questions-là. Il y a 8 sites en tout qui vont être équipés de radars sonores pendant d'abord pour une phase à blanc, c'est-à-dire sans verbalisation. Et puis lorsque les appareils seront homologués d'un point de vue technique, dans ce cas-là, on va rentrer dans une deuxième phase avec verbalisation. Ça sera plutôt fin 2022-2023. Que ça va avoir lieu. Et après, ça pourra se généraliser si ça a montré son efficacité et si les appareils fonctionnent bien.
Et puis, pour se protéger du bruit, il y a le confinement. Bah oui, quand même, tout le monde en a fait l'expérience sensorielle du calme, même la faune et la flore, comme on va le voir dans ce petit reportage de France 3 Centre-Val de Loire. C'était en mai 2020.
Emmanuel et Frédéric sont photographes animaliers. Ils n'ont jamais cessé de travailler sur un territoire circonscrit pour étudier les effets du confinement de l'homme sur la faune sauvage. Et c'est dans un lieu étonnant à la confluence de deux autoroutes et de la voie ferrée Paris-Toulouse qu'ils ont constaté un changement radical.
Ici, en temps normal, c'est le brouhaha total. Et là, depuis le confinement, il nous est arrivé de voir des chevreuils et biches même, et voir sangliers traverser la ligne.
Emmanuel a aussi pris sur le vif et en pleine journée ces images de sangliers, se sentant en sécurité au beau milieu d'une route départementale. Dans ce sous-bois, une ancienne carrière transformée en terrain sauvage de motocross, ce sont une dizaine d'espèces d'orchidées qui s'épanouissent depuis le confinement.
Une petite orchidée qui pose dans les sous-bois, et d'habitude, là, il n'y a rien. Et cette année, par chance, elles arrivent à s'exprimer, elles ont réussi à pousser et à fleurir.
Fanny Metlicky, est-ce qu'on peut étudier aussi l'incidence du bruit sur la faune et la flore? Et puis, qu'est-ce que nous a apporté collectivement cette expérience du confinement?
Oui, alors évidemment, les impacts du bruit ne sont pas que sur la santé humaine. Les animaux ressentent également les conséquences du bruit, puisque ça perturbe déjà leur communication. Ça fait fuir certaines espèces. D'autres s'en accommodent, mais il y a des espèces qui fuient vraiment le bruit. Donc pendant le confinement, en effet, on a pu voir en ville la réapparition de beaucoup d'espèces d'oiseaux qui avaient disparu de certaines villes. Donc les citadins ont pu apprécier
ça a été utile. sur la prise de conscience
ou pas ? Oui, on a eu beaucoup, surtout lors du premier déconfinement, des gens qui se sont dit mais c'est pas possible de revenir à la situation qu'on avait connue avant. Ils ont vraiment beaucoup apprécié le calme du confinement. C'était peut-être la seule chose qu'on a pu apprécier pendant cette période, mais beaucoup de gens ont fait cette expérience sensorielle, en effet, de dire bah, le calme, c'est quand même très important. Et certains ont découvert à cette occasion. Il y a des gens en ville qui partent pas en vacances, qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des endroits plus naturels, donc qui ont toujours vécu dans le bruit. Et pour certains, c'était une vraie découverte de se dire bah non, en fait, on peut avoir un environnement sonore d'une qualité complètement
autre. Françoise Brochot, c'était le paradis pour vous, l'arrêt des avions pendant le confinement, j'imagine.
Complètement, je vous le confirme, mais avec le retour d'un sommeil réparateur dont tout le monde a témoigné autour de nous, et aussi le bonheur d'utiliser les extérieurs. En plus, on a eu une météo formidable dans le premier confinement. Et j'ai constaté également le retour du petit moineau parisien qui avait disparu depuis plus de 10 ans de mon jardin. Et on a vu réapparaître effectivement ces petits oiseaux qui avaient fui à cause du bruit permanent.
Ouais. Il y avait aussi on se souvient des chercheurs qui disaient que c'est pas forcément qu'ils étaient revenus, tous ces animaux, c'est qu'on les entendait parce qu'ils n'étaient plus couverts par les bruits parasites. Un message d'Yves par mail qui nous parle d'un boulevard à Toulon recouvert d'un nouveau revêtement en goudron insonorisant. C'est très efficace, nous dit-il. Peut-on espérer une généralisation de ce type de revêtement dans nos villes?
Oui, ça commence à bien se démultiplier. Nous, en Île-de-France, on a quand même beaucoup de la région et l'État ont mis des revêtements acoustiques sur pas mal de portions d'autoroute. Il y a le boulevard périphérique parisien aussi qui...
Ça fonctionne comment, on sait?
C'est des revêtements acoustiques qui ont des propriétés d'absorption du bruit de roulement, parce qu'il y a plein de petites cavités, plein de petits vides à l'intérieur qui captent le son et qui le piègent, en fait. Et donc ça diminue énormément le bruit de roulement. Alors après, ça agit relativement peu sur les bruits de moteur, donc c'est plus efficace sur les infrastructures où on roule quand même, que en centre-ville où on va être plutôt à l'arrêt. Il faut combiner. C'est pas une solution complète, mais ça participe à l'amélioration et à la lutte contre le bruit routier.
Françoise Brochot, est-ce que vous avez imaginé déménager pour fuir justement cette nuisance quotidienne?
Je pense qu'à terme, je quitterai la région, mais pour le moment, j'y ai des attaches fortes et familiales et amicales. Et ensuite, je laisserai ma place à une personne qui reprendrait mon fardeau et mes problèmes de santé. Donc finalement, il y aurait 1 400 000 franciliens à déménager pour des raisons de pollution sonore de l'aéroport. Soit on fait un no man's land immense de 80 km de long et on ne met plus personne sous ce bruit insupportable, soit ce sont les nuisances qui doivent diminuer de façon drastique. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller.
Gilles nous demande si on peut être affecté par des pollutions sonores que l'oreille humaine n'entend pas.
Alors, la plupart des effets du bruit sont quand même liés à du bruit qu'on entend, dont on perçoit les décibels, mais c'est vrai qu'il y a tout le domaine des infrasons ou des très basses fréquences qui vont pas être audibles à l'oreille et qui peuvent aussi avoir des conséquences qu'on va ressentir de manière corporelle. C'est le domaine des vibrations, typiquement, les vibrations, la gêne tactile qu'on peut ressentir au passage de vibrations, donc ça c'est pas forcément audible.
Mais finalement,
c'est des choses qui peuvent à la fois gêner, peut-être avoir des conséquences aussi sur la santé, mais qui sont encore très mal étudiées par rapport à d'autres phénomènes.
J'allais vous demander finalement, l'être humain, est-ce qu'il sait quand même s'adapter? Parce que de toute façon, le monde évolue et la mobilité aussi. Donc, est-ce qu'il y a un nombre de décibels, on va dire adéquat, vraiment parfait dans lequel on devrait rester? Ou est-ce qu'on a quand même une bonne capacité d'adaptation qui fait qu'aujourd'hui, on supporte mieux qu'on supportait peut-être il y a 50, 60 ou 100 ans ou 300 ans?
C'est difficile de répondre à cette question. On a l'Organisation mondiale de la santé qui émet des recommandations. Donc, c'est au vu des études scientifiques, ils émettent des valeurs, des niveaux de bruit qu'il faudrait vers lesquels il faudrait tendre pour que limiter au maximum les effets sur la santé néfastes.
Donc, c'est quoi? C'est 50 décibels en gros?
Typiquement, c'est autour de 40 décibels la nuit en extérieur et autour de 55 en journée. Donc, on voit, c'est des niveaux qu'on atteint dans certains endroits, mais pas en ville et pas lorsqu'on est exposé sous des avions. Voilà.
Merci en tout cas à toutes les deux. Françoise Brochot, votre association donc dans le Val d'Oise, Advocnar, hein, pour ceux qui souhaitent aussi de l'aide et qui sont confrontés, merci, au bruit des avions, et puis bruit Parif pour ceux qui habitent l'Île-de-France. Et puis je vous rappelle que c'est en ce moment la semaine du son, organisée donc entre autres par l'UNESCO. Vous avez un site internet pour savoir tout ce qui se passe près de chez vous, car c'est sur l'ensemble de la France. Et puis vos messages bien sûr sur le répondeur si vous souhaitez vous aussi témoigner sur le bruit.